Bonjour. Je parle aujourd'hui au sujet de la signification du choix de la forme métrique dans les traductions européennes de l'Énéide. Aujourd'hui, ainsi que jeudi prochain, je vais parler au sujet des traductions de l'Énéide de Virgile, le poème qui a été appelé par T.S. Eliot « The Classic of All Europe », à juste titre. Même pendant la vie de Virgile, l'Énéide était reconnue aussitôt comme cruciale et elle est restée le pivot du canon littéraire latin. Elle a fourni un paradigme pour la Translatio Imperii et Studii, la transmission de l'Empire et du savoir, toujours en mouvement vers l'Occident jusqu'au bord ultérieur du continent d'Amérique du Nord, comme affirme Richard Boswell dans The Founding Legend of Western Civilization, From Virgil to Vietnam. Pendant longtemps, l'Énéide a transmis les valeurs culturelles de Rome au reste du monde occidental. Cela suggère que la décision de traduire le poème a toujours une signification idéologique. Ma conférence est une partie d'un projet plus grand. Je vais prendre quelques minutes pour vous le décrire. Je suis en train de préparer un livre intitulé « Virgile traduit » qui sera, j'espère, une étude importante des traductions des bucoliques géorgiques et de l'Énéide de Virgile en langue européenne, y compris l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le grec, l'irlandais, l'islandais, le polonais, le portugais, le russe, l'ukrainien, l'espéranto et peut-être davantage encore, à partir du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Dans mes recherches, je veux toujours chercher les éléments du texte latin qui sont portés au travers. Je pense au mot latin « traducere », dont le mot français « traduire » est dérivé. Et j'ai l'intention de faire attention aux éléments qui sont perdus. J'essaie de trouver les objectifs de chaque traduction à la fois apparent et sous-jacent, et de découvrir l'impact sur chaque traducteur du contexte économique, politique, littéraire et moral. À ce moment, je suis consciente des questions suivantes. 1. La relation entre les traductions de l'Énéide et des traductions de l'Iliade et de l'Odyssée, souvent faites par les mêmes traducteurs. 2. L'identité nationale, la traduction des textes prestigieux, comme les poèmes de Virgile, a eu un rôle important dans la création d'une langue littéraire dans les langues européennes. 3. Les considérations économiques, surtout le rôle joué par le mécénat et les maisons de l'imprimerie, et plus tard, l'invention des séries, y compris The Loeb Classical Library, Les Belles Lettres et The Penguin Greek and Latin Classics. 4. Certains traducteurs publient leur traduction complète de l'Énéide et des bucoliques, tandis que d'autres choisissent des livres ou des poèmes individuels. Pourquoi? Ce sera le sujet de ma communication jeudi prochain. 5. Équivalence et identification. À quelle mesure les traducteurs font ou invitent des équivalences ou des identifications entre les personnages et les événements de Virgile et leur temps, et pourquoi. 6. La question de la matière paratextuelle ou liminaire. Les traductions sont-elles annotées, à quelle mesure et pourquoi ou pourquoi pas. 7. La concurrence entre les traducteurs. Par exemple, le défi qui a eu pour conséquence la traduction de tous les 10 poèmes de Bucolic par Paul Valéry. Et 8. Le registre et la fidélité en forme et en matière. À propos, j'ai déjà publié une analyse au sujet des traducteurs qui regardent le texte latin comme quelque chose de tout à fait étranger. En examinant 3 traductions modernes qui mettent délibérément en avant l'étrangeté du poème original. Celle de Bryusov en russe, 1933, celle de Klossowski en français, 1964, et celle d'Al en anglais, 2007. Et mon sujet aujourd'hui, le maître, s'inscrit également dans cette catégorie de registre et de la fidélité. Eh bien, quels sont les maîtres utilisés pour les traductions de l'Énéide? Il faut se rappeler que Virgile a utilisé l'hexamètre dactylique, qui était le maître des poèmes homériques en grec, sur lequel Virgile a modelé son poème. L'hexamètre dactylique, comme tous les maîtres à l'époque, fonctionne en mesurant les syllabes par leur longueur, leur durée, plus que par leur accentuation. Chacun des 6 pieds a la même valeur, soit étant un dactyle, long, court, court, soit une spondée, long, long. Un problème ou un défi majeur pour les traducteurs est que la plupart des langues européennes ne fonctionnent pas de la même façon. En revanche, nos maîtres donnent généralement l'importance à l'accentuation des mots. Nous ne pensons pas en termes de 2 syllabes courtes ayant la même longueur d'une syllabe longue. Donc, le traducteur doit-il ou ne doit-il point chercher une forme qui reproduise l'hexamètre dactylique de Virgile? Je me propose d'indiquer la grande variété des stratégies utilisées dans les traductions écrites en écossais, en anglais, en français, en italien et en russe à travers les siècles. Lors d'une conférence d'une heure, je ne peux pas donner une image complète, bien sûr, mais je peux indiquer quelques-unes des questions les plus importantes. Depuis qu'on a commencé à traduire Virgile en vers pendant le 15e siècle en Italie, nous pouvons répertorier des variantes métriques. Si vous voulez bien jeter un œil sur la liste, sur la copie, couplet héroïque, vers blanc non rimé, décasyllabe, fourtineuse, alexandrin français et russe, maître des ballades, octosyllabe, le huitain, octave rime, anapeste, hexamètre de toutes sortes, et plus encore. Et au fil des siècles, les traducteurs, les critiques et les érudits ont exprimé des avis tranchés sur le sujet du maître le plus approprié. Il n'est pas surprenant que chaque traducteur croit que son choix de forme, le maître et la rime, fournit une équivalence proche à l'original, comme il affirme dans sa préface ou dans d'autres textes apologétiques et polémiques. Certains, parmi eux, privilégient l'équivalence littérale, qui se manifeste dans les divers essais de traduction en hexamètre. D'autres privilégient l'équivalence essentielle en affirmant que la mesure choisie est la plus authentique à l'esprit de l'original. Cependant, ce qui est beaucoup plus important que de cataloguer les différents mètres est l'exploration de l'importance qui leur est attachée, particulièrement en fournissant une contextualisation plus large de leur résonance. Pour comprendre le choix de mètre d'un traducteur, nous devons nous demander quels sont les paradigmes culturels qui sont invoqués. À mon avis, il y a au moins deux axes grâce auxquels le choix d'un maître de traduction peut être mesuré. L'axe passé-présent et l'axe domestique-étranger. Il s'ensuit que les deux questions correspondantes qui m'occupent sont de savoir d'un côté si le maître choisi utilise l'idiome couramment en usage pour l'épopée ou bien s'il se propose d'offrir des résonances de l'Antiquité. De l'autre, si un tel maître appartient à la langue vernaculaire propre au traducteur ou bien s'il est emprunté à une culture étrangère qui est présentée comme étant un modèle de sophistication. Mon projet est assez grand. Aujourd'hui, je vais discuter quelques traductions de l'Énéide de la Renaissance en Italie, en France et en Grande-Bretagne, et celles en Russie pendant le XVIIIe siècle et plus tard. Je commence avec l'Italie. Il n'est pas surprenant que Virgile a été traduit tôt et souvent en Italie. En fait, les traductions virgiliennes sont particulièrement importantes dans l'histoire de la littérature italienne grâce à leur contribution au développement de l'italien comme langue littéraire. Quel maître a été favorisé par les Italiens pour traduire l'hexamètre dactylique de Virgile? Une des premières traductions italiennes utilise comme maître la Terza Rima. Elle a été écrite en l'an 1430, avant de l'imprimerie, et est attribuée à Tommaso Cambiatore. Le choix de maître indique assurément l'influence de Dante, qui a utilisé la Terza Rima dans son poème vernaculaire, la Divine Comédie. À mon avis, le traducteur a conçu son choix de maître comme un mariage de la tradition vernaculaire de l'épopée et de la prestigieuse tradition classique. Les premières traductions en vers imprimées de l'Énéide sont apparues dans les années 1530. Parmi lesquelles les traductions de l'Énéide 7 et 8 par Aldobrando Cerretani, la traduction par Giovan Paolo Vasio et la traduction du livre 4 par Niccolo Liburnio. Celle de Vasio était en Terza Rima et il dit qu'il a suivi la vieille traduction de Cambiatore. Je crois que cela suffit pour expliquer le choix de maître. Mais celle de Cerretani et de Liburnio était en vers blanc, non rimé. L'endecasyllabe italien, appelé le verso sciolto, c'est-à-dire vers libre ou vers relâché. C'est ce verso sciolto qui a persisté durant les quelques décennies suivantes. Puis, en 1560, on a changé à l'ottava rima, appelé le Huitain en français pour les traductions de l'Énéide. La strophe est composée de vers de 11 syllabes et elle a la forme abe, 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 cé. La première traduction de l'ensemble du poème en Huitain était celle du même Aldobrando Ceretani, dédié à Cosmo de Medici. Le même maître a été utilisé par Giovanni Andrea de l'Anguillara pour ses traductions de l'Énéide 1 et 2, publiées 4 ans plus tard, et par plusieurs autres. Il y a au moins 2 raisons pour lesquelles les traducteurs de l'Énéide ont préféré ce maître. Premièrement, c'était en raison de son utilisation par les poètes épiques antérieurs, tels Boccace, Policien, Boiardo et l'Arioste, où la traduction vernaculaire accordait un prestige suffisant pour surmonter les scrupules des traducteurs quant à l'utilisation de la rime. Deuxièmement, c'était en raison de sa rime, qui était considérée capable de compenser la légèreté du vers italien par rapport à l'hexamètre classique. Cependant, le poète Annibale Caro a résisté à cette tendance en recourant au versi sciolti pour sa traduction célèbre de l'Énéide, regardée encore aujourd'hui comme la regina, la reine des traductions italiennes. Il semble que Caro a été inspiré à expérimenter avec les versi sciolti, presque comme un jeu ou une blague. Il utilise l'expression per scherzo comme une réponse à un autre traducteur de l'Anguillara après qu'il ait envoyé à Caro sa traduction de l'Énéide 1 et 2 en Huitain en 1564. La traduction de Caro, terminée juste avant sa mort, 2 ans plus tard, a été publiée en 1581 et a été republiée à plusieurs reprises. En fait, la prééminence de Caro semble avoir découragé les autres traducteurs pour la meilleure partie de 2 siècles. Voyez un exemple sur la copie. C'est le début du livre 4. En latin, at regina graviam dudum saucia cura alnus, vulnus alit venis, et caeco carpito igni. Multa viri virtus animo multusque recursat gentis onos. Haerent in fixi pectore vultus, verbaque nec placidam membris dat cura quietem. Annibale Caro, with apologies. Ma la regina d'amorosa strale, gipunta il cuore nelle vene eccesa, d'occulto foco in tanta ardes e si sface, e dell'amata Enea fra se volgendo. Ça suffit. Les différentes stratégies utilisées par les traducteurs italiens nous fournissent une bonne introduction au type de problème. En Italie, on est évidemment d'accord que le vers d'11 syllabes se rapproche le plus de l'hexamètre dactylique latin. Pour les Italiens, la lutte est entre les traductions rimées et celles sans rime. Dans un contexte où la poésie au Moyen Âge s'est appuyée sur la rime ou sur l'assonance, il est facile de comprendre l'aspiration des humanistes de la Renaissance de revenir à la simplicité de la poésie sans rime, la poésie des poètes classiques antiques. Comme a dit l'érudit Mikhail Gasparov dans son livre History of European Versification, selon les humanistes, la rime était une invention de goût barbare et corrompu. Le pionnier en Italie semble avoir été Gian Giorgio Trissino, qui, en 1515, a écrit une tragédie appelée Sophonisba en endécasyllabes non rimées. Et plus tard, il a écrit une épopée 30 ans plus tard, dans le même maître. Comme nous l'avons vu, ce fut le maître préféré pour les nombreuses traductions de l'Énéide publiées en Italie à partir de 1530. Mais d'autre part, le huitain était la forme métrique choisie par d'autres traducteurs à la même époque. Il semble que les deux formes métriques aient un statut égal. Je reviens aux axes du passé, présent et domestique étranger que j'ai proposé au début de mon exposé. Le traducteur italien de la Renaissance cherche la différenciation du passé proche en renonçant la rime de la poésie médiévale dans sa sélection de la endécasyllabe sans rime, afin de rapprocher l'hexamètre classique sans rime du passé plus lointain. C'est assez compliqué. Ou il utilise la rime du huitain comme une compensation pour la légèreté perçue de la poésie italienne et comme une tentative d'alignement avec la tradition vernaculaire de l'épopée italienne établie par Boccace au XIVe siècle et encore en développement dans les mains du Tasse à la fin du XVIe siècle. Donc, passé, présent, domestique, étranger. OK. Comme en Italie, en France, la traduction de Virgile a été une préoccupation constante de la Renaissance, comme le montre l'enquête d'Alice Ulubey. Il y a quelque chose de bibliographique sur la copie. En effet, à travers le XVIe siècle, la langue française a été enrichie par l'effort cumulé de ses traducteurs français, très en phase avec la théorie de la Pléiade, le groupe intellectuel qui visait à améliorer le statut de la langue littéraire française, en partie à travers l'imitation et l'émulation de la littérature grecque et latine. Les premières traductions françaises en vers de l'Énéide comprennent celles de Octavien de Saint-Gelais en 1509, de Louis Desmazures en 1547 et de Joachim du Bellay en 1552. Il utilise tous les décasyllabes rimés. Vous avez sur la copie la version de Dubelay. Pardonnez-moi si je fais une hache. Mais cependant, la roi n'a blessé d'un grief souci, nourrisse dans sa pensée ce qui la blesse, et sonde dans ses veines l'aveugle feu des amoureuses peines. Maintes valeurs, maintes troyennes, gloire, corps et recours en sa prompte mémoire. Mais bientôt, l'Alexandrin, un maître de 12 syllabes, composé de 2 hémistiches de 6 syllabes chacun, renverse le décasyllabe pour les traductions de Virgile, dans les mains de Pelletier en 1580, et les frères Le Chevalier d'Agneau 2 ans plus tard. Par exemple, il y avait de plus, jusqu'à ce que le décasyllabe soit en grande partie relégué au genre comique à partir du XVIIe siècle. Pourquoi s'est-on détourné du décasyllabe vers l'alexandrin? Il y avait la question de fidélité. Le décasyllabe semble avoir encouragé les traducteurs à croître. Comme la plupart des langues, le français a besoin de plus de syllabes que le latin. Dans l'hexamètre de Virgile, il y a une gamme de 13 à 17 syllabes, beaucoup plus que les 10 syllabes de la décasyllabe, dont Dubélé rend les 705 vers latins du livre 4, en 1268 vers. C'est en partie à cause de sa méthode déclarée, qui n'était pas de traduire mot pour mot, mais de compenser pour les effets de l'original par transposition, excision et ajout. Mais, même s'il avait été déterminé de rester plus fidèle au latin, il aurait inévitablement augmenté le nombre de vers. Le 12 syllabes de l'alexandrin offre un peu de plus de possibilités pour l'économie. Quel autre facteur aurait pu motiver le passage à l'alexandrin? Il s'agit d'un maître trouvé dans les chansons de gestes, une poésie narrative sur les thèmes martiaux, à partir du XIIe siècle. Pendant le XIIIe siècle, nous trouvons l'alexandrin plus souvent, mais au cours du XVe, il disparaît. Au XVIe siècle, il est ressuscité par les poètes de la Pléiade, qui aspiraient à trouver un équivalent à l'hexamètre classique pour les poèmes narratifs. Pendant un certain temps, l'alexandrin et le décasyllabe coexistaient. Mais si je vous dis que l'alexandrin a été appelé vers héroïque, tandis que le décasyllabe a été surnommé vers commun, vous pouvez deviner le sort de ce dernier. Donc, la commission de Pierre de Ronsard par le roi Charles IX pour composer son épopée patriotique, la Franciade, en décasyllabe, a condamné le projet peut-être dès sa création, étant donné que d'autres poètes de la Pléiade avaient déjà adopté l'alexandrin. Tous les deux maîtres étaient rimés à cette période. Donc, cela rend la question différente de celle de la coexistence des formes rimées et sans rime présentes dans les traductions italiennes. Comme j'ai déjà évoqué, la question de la rime a provoqué un grand débat parmi les humanistes de la Renaissance. Pour certains, le vers sans rime était leur idéal, comme le plus fidèle aux poètes grecs et latins. D'autre part, étant donné l'absence de maître quantitatif dans les langues vernaculaires, la rime pourrait être considérée comme une sorte de compensation. C'est le point de vue articulé par Dubelet dans son traité de 1549, La défense et illustration de la langue française, livre 2, chapitre 7. Quant à la rime, je suis bien d'opinion qu'elle soit riche pour ce qu'elle nous est, ce qu'est la quantité au grec et latin. Et il n'y a aucun doute que la rime fonctionne mieux en français que dans la plupart des langues européennes, grâce à la prépondérance de l'accentuation sur la dernière syllabe des mots. Considéré comme le mot latin « facere » devient « fare » en italien et « faire » en français. Alors, comment les stratégies utilisées dans les traductions françaises de l'Énéide correspondent-elles aux axes que j'ai proposés plus tôt? Les deux maîtres, la décasyllabe et l'alexandrin, déploient la rime qui, comme nous venons de voir, peut être considérée comme constituant une sorte d'équivalent au maître quantitatif du grec et du latin. Et les deux maîtres ont de longues et prestigieuses lignées dans la poésie française. Cela dit, la tradition de la décasyllabe persiste plus ou moins sans interruption, tandis que l'alexandrin avait disparu de l'usage au XVe siècle et a été relancé au XVIe siècle par les poètes de la Pléiade. Ainsi, il était à la fois une nouveauté et un retour à quelque chose de plus ancien. On peut dire que l'alexandrin a approprié un élément de la culture française du passé comme véhicule de la culture étrangère, un véhicule qui pourrait renforcer la position de la culture littéraire française. Je viens maintenant à la question de la vague d'expérimentation métrique dans les premières traductions britanniques de l'Énéide, qui cède la place à l'adoption du couplet héroïque dans le XVIIe siècle. L'histoire commence avec la traduction de l'évêque Gavin Douglas de l'Énéide en écossais, écrite en 1513 et publiée 40 ans plus tard. C'est un couplet rimé de pentamètre iambique. Douglas suit évidemment dans les traces de Chaucer, qui était à l'origine de la mesure. Chaucer l'a modelé sur le décasyllabe français et l'endécasyllabe italien, mais sont les césures utilisées en français et en italien. En anglais, ce fut un maître longtemps associé avec le récit, en grande partie grâce à Chaucer, qu'il a utilisé pour la légende des femmes vertueuses et les contes de Canterbury. La dette de Douglas à Chaucer est claire, en particulier dans les prologues des livres de ses traductions, où il loue explicitement Chaucer. Il y avait aussi un modèle écossais contemporain, c'est-à-dire la chronique en vers intitulée « The Wallace », une biographie du héros écossais du XIIIe siècle qui s'appelle William Wallace. The Wallis a été composé pendant les années 1470 et imprimé en 1507, lorsque la première imprimerie était mise en place à Édimbourg, ce qui en fait l'un des premiers livres a été imprimé en Écosse. Ce long poème panégyrique, plus de 11 000 vers, est le premier poème écossais survivant qui utilise le couplet décasyllabique. À mon avis, ce poème doit avoir influencé le choix de Maître de Douglas. Sur l'axe domestique-étranger, Douglas préfère le domestique. En revanche, Henry Howard, comte de Surrey, a préféré les décasyllabes sans rime des vers blancs pour sa traduction des livres 2 et 4. La première traduction en anglais, publiée en 1554 et 7. Notre familiarité avec les vers blancs en anglais ne doit pas cacher le fait qu'ils étaient inhabituels à l'époque. En effet, le premier rédacteur, John Day, s'excuse de ce choix de vers tout en le recommandant. The fourth book of Virgil, in treating of the love between Aeneas and Dido, translated into English and drawn into a strange meter by Henry, late Earl of Surrey, worthy to be embraced. Il semble très probable que Surrey a trouvé ses décasyllabes sans rime en Italie, où le maître était un phénomène nouveau, comme nous venons de voir. En effet, on a suggéré que le mot « étrange » dans la description de son rédacteur signifie en fait « étranger ». Pas « étrange », mais « étranger ». Mais peut-être tous les deux. Si nous nous rappelons encore une fois que la poésie médiévale fait usage intensif de la rime, le fait que Surrey évite la rime semble être une décision consciente de moderniser. Une conséquence importante de cette décision est la possibilité d'être plus fidèle au texte latin. Il existe de nombreux exemples où Surrey a pu garder le même nombre de vers que Virgile, en contraste avec Douglas, qui double parfois le nombre de vers. Et voici sur la copie des exemples de Douglas et de Surrey. L'exemple de Douglas, c'est la fin de la préface en rhyme royal et le début du livre 4. Je vais lire quelques vers du livre 4, pas de la préface. By this the queen, through heavy thoughts ensound, in every vein nurses the green a wound, smitten so deeper with the blind fire of love, her troubled mind gan frail rest remove. Et la traduction de Surrey. But now the wounded queen, with heavy care, throughout the veins she nourisheth the play, surprised with blind flame, and to her mind can eke resort the prowess of the man and honour of his race, whiles in her breast imprinted stack his words and pictures form, ne to her limbs care granteth quiet rest. Mais il semble que ni les couplets héroïques de Douglas ni les vers blancs de Surrey ont établi une norme pour les traductions de l'épopée. Dans les années où les traductions de Douglas et de Surrey ont été publiées pour la première fois, Thomas Fair travaillait sur sa traduction de l'Énéide et après sa mort, sa traduction a été complétée par son ami Thomas Twine. Est publié en 1573. Le fortina qu'il utilise est un mètre iambique disposé en groupe de 8 et 6 syllabes. Et il avait un faux pedigree anglais. Tidam, 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 tidam. Je fais une parodie, mais c'est le maître n'a pas le son très, très, très bon à l'oreille anglaise. Mais à l'époque, le fortina avait un faux pedigree anglais. Il a été déployé dans les hymnes communs et les ballades folkloriques depuis le XIIe siècle. Il semble donc raisonnable de penser que l'utilisation de ce maître a pour intention la domestication de l'Énéide pour les lecteurs anglais. The fortina était bien sûr utilisé pour une autre traduction notable du latin faite durant la même période, la traduction célèbre de Golding des Métamorphoses d'Ovide, publiée en 1567, ainsi que pour les traductions des tragédies de Sénèque, rassemblées pour publication en 1581 par Thomas Newton. Donc, à ce moment, nous avons trois maîtres possibles pour les traductions de l'épopée. Le pentamètre iambique rimé, les vers blancs sans rime et le fortina rimé. Mais en outre, il était brièvement en vogue au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle d'essayer de trouver un équivalent anglais au système quantitatif de la prosodie grecque et latine. Les fondements théoriques ont été formulés en Italie, où, c'est assez surprenant, une académie a été créée pour travailler sur les règles. Et en Angleterre, les règles sont régimentées par Roger Ascham dans son livre de 1570 intitulé « The Schoolmaster ». Les règles négligeaient entièrement la question de l'accentuation. Ce qui est pire, on exigeait les mêmes règles pour la longueur des syllabes de celles présentes en grec et latin. Par exemple, une voyelle suivie de deux consonnes est toujours longue. C'était fou. Dans le cas de Virgile, plusieurs traducteurs anglais ont essayé d'utiliser l'hexamètre quantitatif. Pour vous donner un exemple, l'Irlandais Richard Stanihurst, en 1582, a publié sa traduction des quatre premiers livres en English Heroical Verse. Mais il a abandonné le projet, je pense, grâce à sa difficulté. Et je ne vais pas essayer de lire ces vers pour vous, parce que c'est presque impossible de les prononcer. Puis, en 1604, Sir John Harrington a choisi le huitain pour sa version du livre 6. Il répéta la stratégie du comte de Surrey dans la recherche d'un modèle continental. Dans ce cas particulier, il doit avoir été influencé par sa propre expérience dans l'utilisation de ce maître pour sa traduction de l'Orlando Furioso d'Arioste. et par l'utilisation extensive du Witten par les traducteurs italiens de l'Énéide au cours du XVIe siècle. Nous savons que Harrington a révisé sa traduction après avoir reçu quelques conseils métriques du roi James I, qui lui a conseillé de souligner les deuxième et quatrième syllabes de chaque vers. Et puis, il l'a abandonné. Harrington a dit dans son épître liminaire, « That sixth book of Aeneids, which I found so hard and so harsh for our English verse, that I never durst meddle with any more of it. » En contraste avec cette prolifération de maîtres au XVIe siècle, le XVIIe voit le triomphe du couplet héroïque, peut-être dans un retour au modèle de Chaucer. C'est le maître utilisé par plusieurs de traducteurs. George Sands, en 1632, pour les deux versions de John Ogilvy, publiées en 1649 et 5 ans plus tard, et bien sûr pour la version célèbre de John Dryden, qui date de 1697. Je vais lire le John Dryden. But anxious cares already seized the queen. She fed within her veins a flame unseen. The hero's valor, acts, and birth inspire her soul with love and fan the secret fire. His words, his looks imprinted in her heart, improve the passion and increase the smart. Comment caractériser ces traductions anglaises de l'Énéide des XVIe et XVIIe siècles? Elles me semblent tomber dans trois groupes non exclusifs. A. Les tentatives de faire revivre les caractéristiques de la poésie classique. Celles-ci sont le vers blanc de Surrey et les hexamètres quantitatifs de Stanihurst. B. L'importation de stratégies métriques essayées pour la première fois en Europe, en particulier en Italie. Surrey en cours et le Witten de Harrington. C. Le déploiement d'un maître commode à la langue anglaise et qui avait une longue tradition anglaise, les Fourteeners de Fair et Twine, et le couplet héroïque qui domine pendant le XVIIe siècle. Parmi ces trois groupes, on peut affirmer que C représente une décision d'intégrer l'Énéide dans les contextes et les traditions culturelles familières, de la domestiquer à un certain degré. Par contre, A et B accordent le privilège à l'idéal de la fidélité, même au prix de devoir utiliser un maître qui convient moins à leur public, grâce au désir de maintenir le prestige de l'original. C'est-à-dire, si nous nous rappelons mes deux axes, A et B semblent préférer l'étranger au domestique, tandis que C apprécie plus le domestique que l'étranger. En outre, c'est plus compliqué, en outre, A aspire à recréer l'ancien, tandis que B imite les développements poétique contemporain en Europe, et si c'est assimile l'activité de traduction dans le cadre plus vaste de la poésie anglaise. Ceci dit, il faut noter que les rythmes iambiques dominent ici dans presque tous les choix des traducteurs anglais, ce qui ne devrait pas être étonnant, parce que les iambes conviennent à la langue anglaise, qui est caractérisée par l'accentuation forte des mots. Enfin, je vais sauter au 18e siècle afin de consacrer quelques minutes aux attitudes changeantes à l'égard du maître dans les traductions russes de l'Énéide. Nous commençons à l'époque de Pierre le Grand, quand il a imposé sa vision d'une Russie européanisée. Le latin est devenu indispensable chez l'élite et la connaissance de Virgile a été augmentée. L'héritage de Pierre le Grand a été maintenu par ses successeurs, y compris Catherine la Grande, qui était un mécène remarquable des arts. Pendant cette période, l'épopée est devenue la plus haute forme de réalisation artistique. Le grand penseur Mikhaïl Lomonossov a tenté vers la fin de sa vie un poème héroïque monumental intitulé Piotr Veliki, Pierre le Grand, sur le modèle de l'Énéide, mais il l'a laissé inachevé. Il avait déjà inclus des traductions en vers blancs de nombreux vers des bucoliques et de l'Énéide dans son vaste Rhetorica, publié en 1647. Mais la première traduction complète des poèmes de Virgile a commencé assez tard, seulement en 1770, avec la publication des six premier livre de l'Énéide par Vassili Petrov. Petrov a utilisé l'alexandrin russe, vers iambique de 12 syllabes avec rime. C'était juste un peu avant l'apparition de la première épopée russe en 1779, le Rossiada de Mikhail Kerasov, un poème énorme et prétendument fastidieux, je ne sais pas, mais ça on dit, en 12 livres, qui est un traitement classicisant de la prise de Kazan 2 siècles plus tôt par Ivan le Terrible. La traduction de l'Énéide entière de Petrov a été publiée à Saint-Pétersbourg en 1786. Sa publication a immédiatement suscité un débat. Certains louant son exploit de ramener le poème latin dans le patrimoine russe, tandis que d'autres ont critiqué son style pédant et vilipendé son choix d'utiliser des alexandrins plutôt que l'hexamètre dactylique classique. Le choix de mettre est resté une préoccupation centrale pour les traducteurs du 19e siècle. Les alexandrins ont été condamnés pour leur monotonie, tandis qu'on valorisait l'hexamètre du latin original. La prochaine figure majeure de l'histoire de la traduction de l'Énéide en russe est Vassili Joukovsky, fondateur du romantisme russe et un traducteur de grande envergure. Joukovsky a publié sa traduction du livre 2 intitulé « La destruction de Troie » et écrite en hexamètre en 1822. C'était le même choix de mettre pour la traduction de l'Énéide entière par Cherchenevich, publié en série dans le périodique littéraire Sovremennik, ça veut dire contemporain, à partir de 1851. Plusieurs autres traductions en hexamètre sont parues pendant les dernières années du 19e siècle, avec une exception notable en 1878, qui était la traduction de Sosnecki en anapeste. L'hexamètre dactylique est resté le maître préféré pour les deux traductions du 20e siècle par Valery Bryussov et Sergei Osherov. Bryussov était le fondateur du symbolisme russe. Il a commencé à travailler sur sa traduction de l'Énéide
en 1895 et il travaillait encore à sa mort en 1984, après avoir recommencé à maintes reprises. Et nous le savons parce que nous avons les notes de Brioussoff. Est possible de faire la comparaison entre 7 versions différentes. Sa traduction a été publiée 9 ans après sa mort dans la série Bibliothèque antique de la littérature, Bibliothèque de la littérature antique. Elle a été réimprimée en 2000 et est l'une des traductions classiques en Russie. Brioussoff travaillait à un moment où les poètes russes se détournaient des formes classiques et classicisantes vers les essais formalistes. Donc, il me paraît important qu'il ait persisté avec le maître favorisé tout au long du siècle précédent, quand il avait de divers modèles à sa disposition. Il est certes obsédé par la forme et pas seulement en termes de mesure, mais aussi de l'ordre des mots, qui est souvent étonnamment proche du latin, et des effets sonores, en particulier l'allitération. Mais en dépit de sa fidélité formelle, la traduction de Brioussoff est difficile, voire tortueuse à lire, à cause de son engagement envers le bougvalisme, c'est-à-dire littéralisme. Pardon pour ne pas avoir traduit l'anglais en français. Bran i geroia poiu, spiobierigi troi ctopievi, pribil vitaliu, rocom isgnan, i lavinisci granei, cbergu, monogo posusce brosaem, e pomoria oni, siloi se vishni pod nevom, slopamietnim liutoi iunoni. Mnogo pritom ispitav, if boiach prejdecom isnoval on gorod, i vladci bogov prenos, rod od cuda, latino, fi albi longi at si, i tvedini vos vishni romi. L'autre traduction russe du XXe siècle est celle de l'érudit Sergei Osherov, qui, en 1971, a publié l'Énéide entière dans la série très prestigieuse Bibliothèque Всемирной литературы, Bibliothèque de la littérature mondiale. Cette série est généralement achetée en ensemble complet afin d'ornementer votre bureau. La traduction d'Osherov a eu un premier tirage de 300 000 qui a été bientôt augmenté. Comme Brioussoff, Osherov utilise l'hexamètre dactylique, mais d'une manière très différente, à mon avis, en réaction contre les caractéristiques du bougvalisme, littéralisme de Brioussoff. Dans les mains d'Osherov, le maître dactylique transporte le lecteur rapidement. Cependant, il brise la syntaxe du latin en éléments plus courts. En conséquence, la traduction est moins fidèle. De plus, de temps en temps, il a modifié la langue pour la faire rentrer au maître. Dans l'ensemble, c'est une belle traduction qui a tendance à sacrifier la fidélité étroite au latin pour les raisons de rapidité et d'accessibilité. Lorsque nous regardons en arrière l'expérience russe de la traduction de l'Énéide, nous voyons que le maître prédominant est certainement l'hexamètre dactylique du début du 19e siècle et au long du 20e siècle. L'exception principale est la traduction en alexandrin russe du pionnier Petrov à la fin du 18e siècle. Je suis tenté de proposer que son choix est le résultat de la connexion accrue avec d'autres littératures européennes en général et peut-être l'exposition aux cultures françaises et anglaises en particulier. il faut se rappeler qu'avant que Pierre le Grand ait établi sa fenêtre sur l'Europe, le contact entre la Russie et l'Europe occidentale a été médiatisé et filtré principalement à travers la Pologne. Par la suite, la Russie avait un contact direct avec la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les Pays-Bas. Si j'ai raison, Petrov cherchait à gagner du prestige culturel en imposant le maître, je veux dire l'Alexandrin, utilisé par une autre culture contemporaine, la culture française. Une culture qui avait déjà atteint un degré élevé de confiance en soi. De plus, nous savons que Petrov connaissait et aimait la traduction anglaise de Dryden en couplet héroïque. En revanche, les traducteurs suivants qui ont préféré les hexamètres dactyliques pensaient qu'il faisait un retour à la source classique avec plus d'authenticité. Sur les axes que j'ai proposés au départ, celui de passé présent et celui de domestique étranger, Petrov a privilégié l'étranger au-dessus du domestique, tandis que les traducteurs suivants ont privilégié le domestique au-dessus de l'étranger. En plus, à mon avis, Petrov imitait les cultures européennes contemporaines, privilégiant le présent par rapport au passé. Les traducteurs qui lui succèdent ont peut-être cru que leur propre patrimoine littéraire russe était devenu assez puissant pour qu'ils puissent essayer avec confiance de reproduire l'ancien texte plus directement. Donc, ils ont favorisé le passé au-dessus du présent. Ajoutons aussi un fait qui n'est pas hors de propos, que l'hexamètre dactylique fonctionne assez bien en russe, étant donné le grand nombre de mots à plusieurs syllabes dans la langue russe. En conclusion, j'espère que ces études de cas ont offert un sens de la complexité du choix de maître pour les traducteurs de Virgile. Je crois que mes axes proposés, celui du passé présent et domestique étranger, fonctionnent assez bien. Mais ce qui est déjà évident, c'est qu'il y a une grande variété de raisons pour lesquelles un traducteur pourrait souhaiter reprendre le passé ou s'aligner avec le présent ou évoquer une culture étrangère ou se situer résolument dans sa tradition nationale. L'interaction de ces éléments synchroniques et diachroniques est très compliquée. À chaque tour, nous devons être conscients de la façon dont chaque traducteur réagit à son contexte en termes littéraires, culturels, politiques et idéologiques. Seulement après avoir considéré tous ces éléments, pouvons-nous commencer à évaluer l'importance du choix de la forme par le traducteur. Merci.